Ce podcast représente les opinions d'un expert clinique. Le contenu ne doit pas être considéré comme un avis médical et ne remplace en aucun temps les lignes directrices officielles de Société Savante. Si vous êtes un patient, nous vous invitons à consulter votre professionnel de la santé pour toute question médicale. Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast sur le dépistage de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente et parfois difficile à dépister en bureau de médecine familiale. Nous avons donc demandé à Dr. Annick Ducharme, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et fondatrice de la clinique d'insuffisance cardiaque de l'ICM, de nous éclairer sur les causes, les signes et symptômes, ainsi que la prise en charge initiale des patients chez qui un diagnostic d'insuffisance cardiaque est soupçonné. Bonjour Dr. Ducharme, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast sur l'insuffisance cardiaque et le dépistage. Alors, sautons dans le vif du sujet. En quelques phrases, comment définiriez-vous l'insuffisance cardiaque?
Bien, merci beaucoup de l'invitation. En fait, l'insuffisance cardiaque, maintenant, on a une définition universelle. 6 continents, 30 pays, et c'est très simple. C'est des signes et symptômes. Une preuve de congestion, un BNP, puis une anomalie structurelle. Il n'est plus question de bas débit ou quoi. C'est les 3 éléments essentiels à un diagnostic d'insuffisance cardiaque.
OK. Et quelles sont, pourriez-vous en fait nommer quelques causes les plus fréquentes d'insuffisance cardiaque?
En fait, ça dépend où on vit. Si on est en Amérique du Sud, c'est le Chagas. Si on est au Canada ou en Amérique du Nord, c'est les habitudes de vie, donc principalement les cardiopathies ischémiques. Il faut évidemment pas oublier les causes qui sont traitables, donc valvulaires, hypertensives. Et on a un grand volet maintenant de fractions d'éjection préservées qui sont habituellement plusieurs comorbidités. Donc des personnes âgées, hypertendues, diabétiques sont habituellement rejoints. Et de plus en plus, on trouve des causes génétiques. Alors, on a des patients qui avaient une cardiopathie que l'on pensait virale, mais là, quand on a le frère et la sœur, ben, alors maintenant, tous ceux qui ont une cardiopathie non ischémique, on essaie de faire une évaluation génétique, là, parce que peut-être qu'on peut arriver plus tôt dans le continuum de la maladie des petits frères, des petites sœurs ou des enfants.
Oui, absolument. Et vous avez déjà commencé, là, mais pouvez-vous nommer quelques facteurs de risque associés justement à l'insuffisance cardiaque?
Bien, en fait, les choses, tout ce qui est toxique, donc il y a le toxique donné par les docteurs, donc on a la chimiothérapie, que ce soit il y a longtemps avec l'adriamycine, mais maintenant avec les immune checkpoints, je ne sais pas comment dire en français, je m'excuse. Mais radiothérapie également peut causer une altération. Donc, c'est important de retourner dans le temps parce que les patients qui ont eu un Hodgkin à l'âge de 12-15 ans, bien, quand ils sont rendus à 50 ans, s'en souviennent peut-être pas nécessairement. Mm-hmm. Il y a les causes infectieuses. On parle toujours de la cardiopathie virale, mais il y a également le Chagas. C'est une des causes, mais on peut avoir le cardiose. On peut avoir plusieurs pathogènes, donc il faut aller les chercher. Parce que c'est aussi, ça se guérit. Là. Une cardia, c'est des antibiotiques, c'est pas une greffe. Mm-hmm. On a des choses plus fréquentes, en fait, les dysthyroïdies. Donc, que ce soit une hyper- ou une hypothyroïdie peut mener à de l'insuffisance cardiaque. Puis, on a des maladies qui sont des facteurs combinés qui peuvent amener à de l'insuffisance cardiaque, qui n'est pas une insuffisance cardiaque à proprement parler, mais une fibrillation auriculaire très rapide est souvent accompagnée d'insuffisance cardiaque. Donc, il faut traiter l'AFA rapide. Un des toxines que l'on voit de plus en plus, qui est souvent sous-estimé dans la population générale, c'est évidemment la cocaïne crack, mais les amphétamines. Sur les chantiers de construction, surtout en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent fort. Et les amphétamines, c'est rendu une cause très, très fréquente de choc cardiogénique.
Ah oui, intéressant. Et si on décortique notre définition tantôt de l'insuffisance cardiaque, quels symptômes vous recherchez qui vous feraient suspecter une insuffisance cardiaque là, chez un patient qui arrive au bureau?
En fait, la forme la plus difficile, là, je dirais, c'est la dyspnée, parce qu'on peut être essoufflé pour un paquet de raisons, donc il faut y penser. Le patient... On compare toujours avec les gens de votre âge parce que oui, là, je suis plus essoufflée que quand j'avais ton âge. Mais donc il y a la dyspnée, mais tous les signes de congestion. Le cœur, c'est une pompe à eau, donc ça va refiler dans les tuyaux. Les tuyaux, ça peut être les jambes, mm-hmm. si c'est une défaillance droite, donc de l'édème périphérique, mais également de la congestion pulmonaire. Signe plus difficile, c'est, il y en a qui vont accumuler de l'eau au lieu dans les jambes, plus au niveau de l'acide. Donc, avoir un ventre plus gonflé peuvent être un petit peu moins confortable. Des fois, ils disent juste « mon bouton de ceinture ne fait plus ». Et bon, ce que l'on cherche davantage au questionnaire, c'est voir est-ce qu'ils ont de la dyspnée paroxystique nocturne. Donc, ils sont bien, ils se couchent, puis 90 minutes après, ils se réveillent, font des gros cauchemars. S'ils ont commencé à empiler des oreillers. Et un signe très, très peu spécifique, c'est la fatigue. Parce que, bon, mais on est un peu plus vieux, on est plus essoufflé, puis on est un peu plus fatigué. Donc, ça prend un niveau de suspicion clinique assez élevé pour penser que ça pourrait être de l'insuffisance cardiaque. Quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent, c'est que la pompe de Ventolin qui arrive avant le diagnostic d'insuffisance cardiaque, personne qui n'a jamais fait d'asthme de sa vie ne va pas en développer à 50, 60 ou 70 ans. Donc, encore une fois, il faut soupçonner une insuffisance cardiaque.
Très bien. Quand vous suspectez l'insuffisance cardiaque au questionnaire, quels signes physiques allez-vous rechercher pour préciser le diagnostic?
En fait, les signes de congestion, donc l'édème des membres inférieurs est souvent le plus facile. Si c'est des patients qui sont couchés, bon, on va aller en pré-sacré. Le signe qui est vraiment pathognomonique, qui a une hausse de la tension veineuse centrale, c'est les jugulaires. Les gens haïssent de regarder les jugulaires, mais c'est vraiment... C'est un signe direct du cœur. C'est un peu comme le dipstick dans le moteur d'une voiture. Tu es capable de voir le niveau d'huile, donc c'est assez important. On peut avoir, surtout chez des cas plus avancés, des signes d'hypoperfusion, donc une perte de... Les mains plus froides, des fois, ils perdent même leurs cheveux, mais c'est plus rare. C'est vraiment plus la congestion que l'on va retrouver à l'examen physique, là. Évidemment, au niveau cardiaque, ben, on peut avoir une tachycardie, on peut avoir une pression, une tension artérielle pincée ou une tension artérielle basse, on peut avoir un B3, on peut avoir des souffles. L'examen cardiaque est super important parce que, encore une fois, ça peut nous orienter vers notre cause de diagnostic. Si on a un apex qui est étalé, qui est déplacé, ben, pensez à une dysfonction systolique, quelqu'un qui a peut-être fait un infarctus ou une cardiopathie. Si on a un souffle cardiaque important, ben est-ce que c'est une syncope aortique, c'est une insuffisance mitrale, une insuffisance tricuspidienne? Donc, l'examen physique est super important pour nous orienter déjà vers le diagnostic.
Très bien. Et une fois que vous avez les éléments là, au questionnaire puis à l'examen physique, quelles sont les investigations initiales qu'on va lancer là, durant la première visite?
En fait, dès qu'on soupçonne l'insuffisance cardiaque, la définition universelle nous dit « signes et symptômes compatibles, BNP et écho ». Le BNP, c'est une hormone qui est sécrétée par le myocyte. Donc, si le myocyte sent une surcharge en pression ou en volume, il va aller sécréter ce facteur-là, il va dire au rein, moi, j'en peux plus, va uriner du liquide, fais en sorte que je travaille moins fort. Évidemment, tous les facteurs causaux, tant qu'à faire une prise de sang, bien, on va aller voir les diagnostics différentiels, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, dysthyroïdie, donc est-ce que c'est une hypo ou une hyper. Parfois, nos patients sous bêta-bloqueur, l'hyperthyroïdie est un peu masquée parce qu'ils ne sont pas en FA, ils ne sont pas en hyper rapide. Alors, je pense que ça vaut la peine de le faire. Un électro, évidemment, et puis faire attention aux anémies. On pourrait être essoufflé parce qu'on n'a pas assez de transporteurs d'oxygène dans le sang. Alors, c'est pas mal ça.
Parfait.
Puis évidemment, une fois qu'on a fait notre bilan de base, ben tu veux avoir une radiographie des poumons. C'est à peu près la seule affaire au Québec qui n'a pas de liste d'attente. Alors, puis ça donne plein d'informations. Hein. Tu peux voir évidemment la grosseur du cœur. Tu peux voir si la vascularisation, si tu as des œdèmes pulmonaires, mais juste si tu as des gros îles, si tu as des épanchements. Puis également, dans le diagnostic différentiel, tu peux avoir une masse pulmonaire qui rentre dans le diagnostic des gens insoufflés.
Puis une fois que, bon, tous ces examens-là nous orientent vers l'insuffisance cardiaque, c'est quoi la prochaine étape?
Alors, bien, je pense que si tu es au bureau puis tu as un BNP, tu peux commencer déjà à traiter ton patient, surtout s'il est symptomatique. Donc, traitement de base, c'est des diurétiques. Maintenant, on a une classe d'agents qui est bonne pour toutes les fractions d'éjection. Donc, la diurétique SGLT2, quand ça va être remboursé, peu importe la fraction d'éjection. Et là, je pense qu'il faut faire une échographie. Ça va te permettre d'éliminer des causes qui ne sont pas de l'insuffisance cardiaque comme telle, mais complètement guérissables, une péricardite constrictive. Mm-hmm. On a beau donner bien des diurétiques, bien des pilules, ça prend un geste chirurgical. Éliminer les valvulopathies. Et va nous donner un chiffre, parce que pour l'instant, on a vraiment fraction d'éjection réduite pour laquelle on a 4 médicaments et fraction d'éjection préservée pour laquelle on en a 2, SGLT2 puis les ARN. Donc, ça, certains de mes collègues au labo d'écho disent finalement, on aurait besoin juste 2 cases, 40 % et moins ou en haut de 40 % C'est plus compliqué que ça, mais ça peut être extrêmement utile dans ce contexte-là. Si le patient n'est pas échogène ou on peut faire un examen en médecine nucléaire, une ventriculographie isotopique, mais tout en réalisant que ça n'éliminera pas les valvulopathies. Évidemment, l'IRM est encore plus précis pour la quantification de la fraction d'éjection, du volume, mais les attentes sont encore pires.
Oui, j'imagine. Puis, quand selon vous, devrait-on envoyer notre patient à l'urgence?
Ben, quand c'est urgent. C'est-à-dire, si on a un patient qui est en... Qui est essoufflé, là, un classe 4, là, vous allez chercher dans la salle d'attente, puis il est vraiment au bout de son souffle. Quelqu'un qui a pris beaucoup d'œdèmes, puis c'est clair qu'avec mes diurétiques par la bouche, ben, je ne suis pas sûr qu'il va les absorber parce que le système digestif est également congestionné. Il y a 5-10 kilos à perdre, ben, en ambulatoire, ça va prendre à part. Si on a un système ambulatoire là, avec des diurétiques intraveineuses, ça va prendre un temps important. Si c'est un diagnostic de novo, puis dans cet état-là, probablement qu'on fait d'une pierre deux coups. Là, à l'urgence, on va le traiter, voir un bilan étiologique, puis on va pouvoir commencer à le traiter rapidement. Évidemment, tout signe inquiétant là, de décompensation, quelqu'un qui est tachycarde, quelqu'un qui est hypotendu, surtout s'il est symptomatique, quelqu'un qui a fait une syncope ou alors qui est bradycardie, quelqu'un qui a l'air en détresse respiratoire, là, qui respire plus rapidement. Évidemment, si le patient aussi dénote, en plus de sa congestion, il présente des signes d'angine où l'électro est anormal, surtout si on en avait un électro normal dans le dossier dans le passé, je pense que c'est des choses qu'on veut faire assez rapidement. Là. Alors,
parfait. Puis, dans le cas où on n'a pas besoin d'envoyer notre patient à l'urgence, là, quand devrait-on référer à un spécialiste?
Je pense que ça dépend du niveau de confiance de chacun. Il y a des groupes de médecine familiale qui ont leurs champions dans certains domaines. Puis, je connais un médecin de famille pas très loin d'ici qui a initié pas mal plus de sacubitril valsartan que certains de mes collègues. Donc, ça dépend un petit peu de quel milieu on pratique puis de notre milieu avec lequel on est habile. Si notre pratique est principalement bien, de l'orthopédie ou de la pédiatrie, soit se référer à un de nos collègues ou alors l'envoyer à un spécialiste. Il y a beaucoup de pharmaciens aussi ou d'infirmières dans les groupes de médecine familiale qui peuvent aider à optimiser les traitements. Donc, ça dépend des ressources que l'on a à notre disposition. Si on est tout seul dans notre bureau, ça risque d'être un petit peu difficile, puis à ce moment-là, le faire. C'est la chose qui est probablement le plus tough au Québec actuellement, c'est d'avoir accès aux modalités d'imagerie. Je pense que le BNP est disponible dans à peu près tous les laboratoires. Je ne suis pas sûre que les médecins de famille le savent, mais juste à écrire dans « autre BNP » ou « NT Pro BNP », puis à ce moment-là, il va être fait. Et l'accès à l'imagerie, à ce moment-là, il faut vraiment expliquer... pour que ça soit fait dans des délais acceptables. Les délais acceptables devraient être à l'intérieur de 3 mois. Okay. Si c'est juste écrit dyspnée, ben ça peut prendre, surtout maintenant avec la COVID, nous, je pense qu'on est rendu à 1 an de retard. Là.
Ah oui. Hein.
Alors, il faut vraiment le faire. Puis s'il y a une incertitude, ben moi, je dis toujours, j'ai mon téléphone, appelez-moi ou appelez la clinique d'insuffisance proche de chez vous. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour aider. Il y a des structures en place aussi qui permettent d'initier des médicaments rapidement. Il faut réaliser qu'on a, pour les fractions d'éjection réduite, on a 4 médicaments. Et si on prend ces 4 médicaments-là à bonne dose, à 2 ans, on diminue 75 % la mortalité puis 90 %
wow.
des hospitalisations. C'est pas juste un peu d'eau sur les poumons. Là. La mortalité d'insuffisance cardiaque est plus grande qu'à peu près tous les cancers réunis sauf le poumon. Et grâce à la COVID, je dirais, l'insuffisance cardiaque est maintenant rendue la cause numéro 1 d'hospitalisation au Canada. En 2019, c'était les infections respiratoires. Mais comme les gens ont eu tellement peur de sortir ou on les a empêchés de sortir, c'est maintenant l'insuffisance cardiaque. Alors, il est temps d'agir.
Wow. Eh bien, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de participer à ce podcast.
Grand plaisir.